Bien. Il m'incombe donc de présenter, dans le cadre de cette année que j'ai essayé de forger, si je puis dire, l'intervention de M. Paul Colras. Alors, Paul Colras est normalien agrégé de philosophie, en l'occurrence. Il est également docteur et lettres avec une thèse sur le philosophe roi chez Platon, qui est en cours d'impression dans une collection de chez l'éditeur Vrin, qui est, comme vous le savez, spécialisé, et même exclusivement spécialisé en philosophie, et qui est un endroit tout à fait prestigieux. En ce moment, Paul Colras est professeur de philosophie dans un des lycées français de Beyrouth, d'où il vient. Il est arrivé il y a 2 jours, je crois, en passant par Lyon. Donc il nous vient de Lyon et au-delà de Beyrouth. Connaissant son intérêt pour la façon dont Platon explique que seul le règne des philosophes pourrait sauver la cité, la cité grecque de son époque, je lui ai demandé de réfléchir sur la nature éventuellement philosophique de la notion de salut, puisque cette année nous réfléchissons sur ce que signifie sauver. Je n'ai pas voulu que l'année porte le titre simplement de salut, qui aurait peut-être eu l'inconvénient de restreindre l'optique à la dimension religieuse, puisqu'il y a des quantités de choses que l'on peut sauver, et on peut même se demander ce dont on n'entend pas dire qu'il faudrait le sauver en ce moment, et qui n'ont rien à voir avec le religieux. Je lui ai donc demandé si cette notion avait un sens, faisait sens, comme on ne devrait pas dire, en philosophie. Et donc je lui ai proposé comme titre « Le salut est-il une notion philosophique ?» Alors ce titre, il l'a légèrement modifié, mais je suis sûr que nous allons avoir une réponse, enfin, que je vais avoir en tout cas une réponse à ma question. Je vous donne donc la parole.
Merci Rémi pour votre invitation. Merci à tous de m'accueillir. Donc effectivement, le titre serait plutôt « Se sauver du salut ». Et le sous-titre pourrait être « Pour une sotériologie philosophique ». Donc, je vais essayer d'expliquer ce mot qui paraît peut-être un peu étrange de sotériologie. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est défendre l'idée qu'on peut construire une sotériologie philosophique, c'est-à-dire une discipline rationnelle, dont la tâche serait d'élucider ce que signifie se sauver. Et cette discipline, elle pourrait être aussi digne que d'autres disciplines philosophiques qui élucident, elles, ce que signifie, par exemple, être, connaître, agir, penser, s'organiser. Et donc, les propos qui vont suivre sont un résumé des recherches que je mène depuis quelques années. D'abord, comme l'a rappelé Rémi Brague, au cours de ma thèse sur Platon, où je me suis interrogé sur ce que signifiait sauver la cité, ce qui m'a conduit à un ouvrage que je suis en train d'écrire, que j'ai commencé au premier jour du confinement, qui était un moment où on s'est beaucoup posé la question de ce que ça veut dire se sauver. Et donc, dans le but général que je vais essayer d'exposer aujourd'hui, c'est la distinction entre le salut et ce que je propose d'appeler la salvation, pour justement éviter la confusion dont on a parlé à l'instant. Évidemment, le thème du salut, on le pense réservé à la méditation religieuse. Mais, étonnamment peut-être, il traverse l'histoire de la philosophie. Cette traversée, on peut la faire, disons, diachroniquement, depuis les origines de la philosophie, c'est-à-dire, selon moi, Platon, qui voyait justement dans le philosophe le sauveur de la cité. On peut penser aussi à Descartes, qui cherchait à penser, voire à assurer l'immortalité de l'âme, et on peut penser aussi à Nietzsche, qui, lui, refuse l'éternité métaphysique, au profit néanmoins d'une autre forme de salut, ou plutôt de salvation, qu'il appelle éternel retour. Cette traversée de l'histoire de la philosophie, on peut la faire non pas diachroniquement, mais aussi synchroniquement, c'est-à-dire en prenant différentes disciplines philosophiques. Par exemple, la philosophie politique. Chez Aristote, au livre 7 et 8 des Politiques, Aristote cherche un moyen de sauver chaque régime politique. Rousseau, dont la signature du contrat social est en fait un moyen pour conserver les individus, les défendre et les protéger de, disons, des dangers qui les entourent. Et évidemment, chez Marx, qui a pour point de départ la réflexion sur les moyens de subsistance dont le capitalisme est une utilisation. On peut aussi penser à l'éthique, qui peut se lire à partir du thème du salut ou de la salvation, puisqu'elle recherche une purification ou une paix de l'âme, par exemple chez Épicure. Et donc elle cherche à sauver l'individu du mal. Et on peut trouver le thème du salut dans des disciplines philosophiques bien moins évidentes, comme la philosophie de la connaissance, où le thème du salut ou de la salvation se lie à travers celui de la certitude, qui est une forme d'assurance de l'esprit, et donc une manière de se sauver de l'incertitude et de l'erreur. Enfin, on peut le lire dans la philosophie de l'être, dans l'ontologie, qui s'efforce de définir ce qui se maintient malgré les changements, c'est-à-dire ce qui donne aux choses leur consistance. Et donc, elle n'est donc pas, l'ontologie ou la réflexion sur l'être, seulement une recherche de la définition de l'être ou de l'identité de l'être, mais plus profondément de ce qui est sauf au-delà des perceptions immédiates. Évidemment, le thème du salut déborde largement la philosophie. Les discours de l'époque sont obnubilés par la manière de se sauver, que ce soit dans le discours sur la sécurité, où il s'agit de se sauver d'un ennemi intérieur, dans l'écologie, où il s'agit de se sauver de la catastrophe climatique en cours, ou carrément de sauver le climat ou la planète, dans la santé publique, où il s'agit de se sauver d'une épidémie, et bien sûr dans le discours militaire, où l'on voit ressurgir la vieille question de savoir comment sauver l'Europe, voire le monde, de la guerre en cours. Alors, la difficulté, une fois qu'on a, disons, fait un parcours un peu, disons, cavalier dans l'histoire de la pensée philosophique du moins, la difficulté, c'est de savoir si, étant donné cette amplitude des usages de la question du salut, on peut déterminer une réelle question philosophique. Et pour déterminer une question philosophique, il ne suffit pas de relever des thèmes dans des textes épars, il faut aussi trouver des formes, des paradoxes, des apories et des thèses pour qu'il y ait une authentique question philosophique constituable. Donc, ça suppose de distinguer, au moins dans un premier moment, la manière dont la philosophie traite le thème du salut et la manière mythique ou la manière religieuse. Évidemment, ça n'est pas facile, parce qu'il est des questions philosophiques qui recoupent des questions religieuses, comme bien sûr l'éternité de l'âme, que l'on trouve dans quantité de traités philosophiques, du Phédon à l'éthique de Spinoza ou à la critique de la raison pure. Et il est des usages philosophiques de textes mythiques ou religieux, que ce soit le mythe d'Er à la fin de la République de Platon ou à la Bible chez Spinoza ou même à la figure prophétique dans Ainsi parlait Zarathoustra. Et donc, ce que je proposerais, par convention au moins en première analyse, c'est de traiter la manière dont il est question en philosophie par le terme de salvation, que je laisse pour l'instant relativement indéterminé, en l'entendant seulement comme le fait de ne pas être détruit par un mal qui pourtant guettait ou guette encore. Et donc je laisse de côté le terme de salut, défini lui comme simplement l'état stable que l'âme individuelle peut atteindre post-mortem, après la mort. Donc ça ne signifie pas que le salut ne peut pas intéresser le philosophe, surtout quand il cherche à comprendre sa foi, mais la salvation est une notion plus large que le salut. Elle n'est pas nécessairement un état stable, mais elle est ce par quoi advient un écart avec le mal. La question est donc la suivante. Comment peut-on faire de la salvation un champ de recherche philosophique? Autrement dit, est-ce que l'on peut tracer des lignes de force pour l'analyse de la manière dont on n'est pas détruit? L'objet de la sotériologie, ainsi entendu, serait une double négation. Elle étudie la non-destruction. Ou plutôt, elle étudie ce qui reste quand une destruction s'est faite sentir. La sotériologie philosophique, c'est l'étude de ce qui reste, dans le double sens de ce qui se maintient, de ce qui se tient debout, comme l'indique l'étymologie de rester, et de ce qui échappe. C'est à la fois se maintenir et échapper, et voilà le premier paradoxe de la sotériologie, qui est que ce qui se maintient doit en même temps échapper, et que ce qui échappe en même temps se maintient. Alors, j'imagine que vous êtes féru de langue française et que le terme salvation sonne à vos oreilles comme un anglicisme à bannir. Alors j'ai fait mes recherches et il n'est pas un décalque de l'anglais si on considère que il existe en fait depuis au moins le XIVe siècle. Si on en croit le linguiste Edmond Huguet, il relève que on trouve 4 synonymes au moins qui exprime le fait de sauver ou d'être sauvé. Sauvation, sauvement, sauveté et salvation. Et il précise, tous étaient fort anciens, de beaucoup antérieurs au XVIe siècle. Huguet précise qu'il existe même 2 mots salvation, en réalité. Je cite, « Le mot salvation que nous rencontrons au XVIe siècle n'est pas celui de l'ancien français. Son emploi n'est dû qu'à l'influence latine. » En fait, on peut interpréter cette remarque en disant qu'il y aurait non pas un, mais 2 mots salvation en français, l'un s'appuyant sur le latin religieux, salvatio, et un autre sur un usage non religieux, que l'on trouve d'ailleurs dans la première occurrence disponible que j'ai trouvée, qui date de 1350, dans la chanson de geste Baudouin de Sebourg. Ici, la langue est un symptôme, d'abord de la dualité du sens, religieux et immanent de la salvation. Et ensuite, la langue est un symptôme de la réduction du champ possible de la sotériologie, qui s'est comme concentré sur le salut, alors qu'il y avait au moins 3 autres mots pour dire le phénomène de ceux qui sauvent, sauvation, sauvement, salvation. Et un mot, que j'ai trouvé chez Proust d'ailleurs, pour dire le lieu du phénomène en question, c'est-à-dire la sauveté. Ces 3 mots de sauvation, sauvement et salvation, ouvrent la sotériologie à un champ plus large que la seule survie après la mort. Quoique sauvement mériterait qu'on s'y attache, tant sa nature adverbiale permet bien de penser que ce qui sauve n'est pas un objet ni un sujet, je retiens seulement, au moins aujourd'hui, le mot de salvation, qui nous est plus naturel précisément parce qu'il est encore présent en anglais. Donc la sotériologie philosophique ne se limite pas à l'analyse du salut, elle est la théorie de la salvation. Premier point, la sotériologie a une dignité philosophique. Si on admet que la salvation n'est pas nécessairement la survie de l'âme après la mort, mais l'écart avec la destruction, alors la sotériologie peut être constituée comme discipline philosophique, distincte de ce que la théologie appelle sotériologie. Il faut donc, si, pour admettre ce point, commencer par établir que la salvation est une question irréductiblement philosophique. Je propose 2 arguments. Le premier argument pour établir que la sotériologie est une discipline philosophique est semblable à l'argument très classique que tous les professeurs de philosophie enseignent en terminale, contre le relativisme, c'est-à-dire contre l'idée selon laquelle il n'y a pas de vérité. Et en effet, celui qui dit « il n'y a pas de vérité » est dans une contradiction performative, puisqu'il prétend affirmer une vérité. Et donc, par le geste même où il dit qu'il n'y a pas de vérité, il démontre qu'il y a toujours une vérité au moins supposée par celui qui parle. De même, celui qui voudrait se sauver du salut confirmerait qu'on ne peut pas se sauver du salut, qu'on n'échappe pas à cette question de savoir comment se sauver. On peut voir, me semble-t-il, un témoignage de cette irréductibilité de la question de la salvation dans l'œuvre d'un philosophe contemporain important qui s'appelle Tristan Garcia, qui précise dans son grand ouvrage qui s'appelle « Forme et objet » qu'il veut échapper à la question du salut. Il dit « Ce sens que nous réclamons, que la pensée recherche, n'est pas le salut, c'est-à-dire la possibilité de conserver de soi l'essentiel. » Mais, il dit dans un ouvrage qui est sorti l'an passé, qui s'appelle « L'architecture du possible », que la pensée sauve, et que l'idée de salut est, je cite, « l'horizon de la pensée ». Alors évidemment, on pourrait voir la chose, relever la contradiction et moquer la contradiction, mais bien loin de là, il me semble qu'au-delà de la simple contradiction formelle entre ces deux textes, on pourrait voir la recherche d'un autre salut, d'une autre manière de se sauver que précisément j'appelle la salvation. La salvation serait alors non pas ce qui produit une conservation, mais au contraire ce qui laisse être les choses. De manière générale, il me semble assez frappant que l'histoire de la philosophie, depuis Nietzsche, depuis le début de la fin de la métaphysique, est marquée par la recherche d'une autre manière de définir la salvation, précisément contre la figure métaphysique du salut comme éternité. Nietzsche, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, critique l'éternité métaphysique comme forme de mort, parce que l'éternité serait un état d'identité à soi, c'est-à-dire d'absence de vie, mais il propose une autre salvation, l'éternel retour, qui est, au contraire, une création permanente. Heidegger critique lui aussi l'éternité, et il définit le Dasein, j'en reparlerai, comme être vers la mort, mais en même temps il cherche un abri face à la dévastation technique. Derrida décrit, lui, les ambivalences de ce qu'il appelle le pharmakon, qu'il reprend à Platon, et finit son œuvre par une recherche intense d'une messianicité sans messianisme, donc de ce que signifie philosophiquement le messianisme. Un deuxième argument en faveur de l'irréductibilité de la sotériologie comme discipline philosophique serait que la philosophie elle-même est une recherche de salvation. Parce que elle commence non pas seulement par un désir de connaître, mais par l'épreuve d'un mal. Ce mal peut être simplement l'épreuve d'une aporie, d'un problème, c'est-à-dire de ce qui empêche d'avancer. La philosophie n'est pas une gratuite jouissance de concepts, mais le geste de se sortir d'une mauvaise passe, d'une route sur laquelle un obstacle empêche de passer. La philosophie commence certes par un désir, par une amitié, mais celle-ci s'éprouve dans un mal commun. Alors on peut songer à l'enchaînement des prisonniers de la caverne, ou à la torpeur imposée par Socrate, comparée à une torpille marine, à ses interlocuteurs. Aristote, dans la métaphysique, dit que l'on ne trouve la science que si d'abord on passe par le lien, par le nœud, le desmost de l'aporie. Ce qui signifie que la découverte de la vérité est en même temps une déliaison, une délivrance, l'usis. Al-Ghazali présente, lui, ses recherches, l'origine de ses recherches dans la délivrance de l'errance, comme un certain mal. Mal, précisément, qui est l'errance. Et, par conséquent, comme la recherche d'un remède, un hilage, qui correspond à une sécurité. Ce mal initial par lequel la philosophie commence, peut être l'objet d'une décision. Être un mal que l'on décide de s'infliger, comme Descartes, qui, pour établir quelque chose de ferme et de constant dans les sciences, affronte un certain péril, celui de détruire généralement ses anciennes opinions, toutes ses anciennes opinions, ce qui implique, dit-il, la ruine des fondements, sufosis fundamentis. La sufosis n'étant pas n'importe quelle ruine, mais une ruine intérieure, désignant l'action de creuser par en dessous. Cette ruine initiale, elle peut être créée par l'imagination. Ainsi, Descartes, pour commencer à philosopher, crée une figure maléfique, un certain mauvais génie, faisant de l'absence de certitude un équivalent du mensonge et faisant des ténèbres le point de départ de la recherche. Le mal initial de la philosophie peut être une dispersion, comme chez Hegel, qui voit la naissance de la philosophie dans le besoin d'une certaine victoire, définie pour la pensée comme la résolution de ses propres contradictions. Ce mal initial peut être au contraire l'identité. Nietzsche présente Zarathoustra comme celui qui lutte contre une maladie qui est précisément la recherche de l'éternité, c'est-à-dire de l'identité à soi. D'où chez Nietzsche l'éloge du danger, donc de ce qui altère, qui donne une certaine salvation. Et c'est pourquoi Nietzsche fait d'une blessure le point de départ de l'écriture. Je cite « De tout ce qui est écrit, je n'aime que ce qu'on écrit avec son sang ». Si on admet l'irréductibilité de la question de la salvation, il faut en plus reconnaître des formes de la salvation, si on veut que la sotériologie soit ancrée dans la tradition philosophique. Et on peut décrire, a priori, trois grands phénomènes de salvation qui sont la protection, la guérison et la fuite. Je dis phénomène a priori, peut-être que ça sonne étrangement à ceux qui ont beaucoup lu Kant. Ça peut paraître contradictoire, un phénomène a priori, parce qu'on est habitué à distinguer justement le phénomène de l'a priori. Mais justement, ces formes de salvation sont des paradigmes qui permettent de comprendre d'autres phénomènes. Par exemple, on parle de protection dans un autre contexte que le contexte militaire. Par exemple, la protection des données ou la protection de la civilisation. Mais on voit que le contexte militaire laisse une trace, que j'essaierai de comprendre. De même, on parlera de la guérison, même lorsqu'il n'est pas question de santé au sens littéral. Bien sûr, de guérison de l'âme, lorsqu'elle cherche son salut, mais aussi lorsqu'un pouvoir représente une menace comme une infection. Ainsi de Bachar el-Assad, qui, le 20 juin 2011, qualifiait une partie de ses opposants de, je cite, « virus qui infecte le corps syrien », précisément pour indiquer son projet d'extermination. De même, le paradigme de la fuite, troisième forme de salut, sert à qualifier bien des attitudes autres que le retrait spatial. Je définis la protection, première forme de salvation. La protection consiste à maintenir le mal en dehors de soi. Par exemple, politiquement, lorsque l'ennemi attaque la cité, on le maintient en dehors par des remparts ou on le repousse par des armes. On peut lire l'Iliade comme le récit de l'échec de la protection. Les remparts finissant toujours par céder, les armes ne suffisant pas à sauver. Je cite « J'ai alors, moi, pour les Troyens, bâti autour de leur cité une large et superbe muraille qui rend leur ville inexpugnable », dit Poséidon au champ 21 de l'Iliade. Mais le rempart n'est pas inexpugnable. Et Homère, réflexe libanais, fait de la chute du rempart un thème poétique, comme en témoignent les expressions récurrentes que l'on trouve dans le texte, comme franchir le mur, sauter le mur, passer le mur, enlever le rempart, ou encore le mur achéen a croulé. Et ça devient l'occasion d'une magnifique description au chant 12, chant que Platon d'ailleurs appelait le combat des murs, la description de la chute du rempart du Taïkos des Achéens. Je vous lis ce passage pour vous délasser l'esprit. Il fait de la sorte sauter les pivots, et tandis que la pierre de tout son poids retombe à l'intérieur, la porte terriblement mugit, les barres cèdent, les vantaux éclatent en tous sens sous l'élan de la pierre, et l'illustre Hector s'élance à travers. Son aspect est celui de la nuit rapide. Il luit de l'éclat terrible du bronze qui vêt son corps et il tient deux lances au poing. Nul, sauf un dieu, n'oserait l'affronter pour chercher à l'écart des nefs au moment qu'il franchit la porte. Le feu flambe dans ses yeux. Lors, se tournant vers la foule, il crie aux Troyens l'ordre de sauter le mur. Ils obéissent à l'appel. Deuxième forme de salvation, la guérison. qui, elle, consiste à faire sortir le mal de soi, non plus à s'en protéger, mais à le faire sortir. La maladie, en effet, n'est pas l'idée d'une menace, mais d'une détérioration en cours, du moins d'une altération du corps. La définition spontanée de la santé serait de revenir à un état non altéré du corps, par exemple par une simple expulsion du mal, une purge. Notons que déjà la notion de purge consiste à se sauver du mal par un autre mal. Pour guérir, la drogue ingurgitée causant elle aussi un trouble dans le corps. On voit cette forme de faire usage d'un mal pour se guérir d'un mal, évidemment dans la catharsis d'Aristote, la purgation des passions dans la poétique, puisque c'est en faisant usage de l'image du mal que l'on peut purifier la cité de ces passions mauvaises que sont, selon Aristote, la terreur et la pitié. Bien sûr, un tel retour à un état non altéré du corps est impossible. D'abord parce que le corps a toujours déjà été altéré, par exemple par les bactéries qui permettent son bon fonctionnement digestif, et ensuite parce que le corps est, du fait de son existence temporelle, en état d'altération continue jusqu'à la mort, et enfin parce que la maladie laisse des traces, comme le rappelle la notion récente de Covid long. Troisième forme de salvation, la fuite. La fuite consiste à changer d'espace lorsque le mal arrive. La fuite est un paradigme double, dans la mesure où elle désigne à la fois l'acte même de fuir, par exemple, je pars de cette salle en courant, ou le fait de fuir, par exemple, le tuyau est en train de fuir. C'est-à-dire, il laisse passer de l'eau. La fuite est donc à la fois l'écart que l'on prend avec quelque chose et l'acte de mettre une distance, donc l'acte de mettre une distance entre soi et un mal, et le fait de laisser passer ce qui devrait être contenu. Vous voyez que la fuite, c'est un paradigme de la salvation opposé à celui de la protection, car elle repose, la protection, sur le maintien en l'état d'une situation, alors que la fuite consiste au contraire à s'écarter d'une situation. Chacune de ces trois formes de salvation, la protection, la guérison et la fuite, implique une limite. Si l'on suit l'une de ces trois voies de salvation, on est conduit à partir d'un certain seuil à une aporie par laquelle la salvation se transforme en destruction. Par exemple, l'aporie de la protection, c'est l'isolement. L'aporie de la guérison, c'est qu'elle combat une altération par une altération. Et l'aporie de la fuite, c'est que, à force de s'échapper toujours de la situation, on finit par précisément n'en avoir plus aucune. La salvation, donc, n'est pas réductible à l'une de ces formes. Elle joue en elle jusqu'à un certain seuil. Mais si ce seuil est dépassé, elle se retourne en son contraire, en destruction. On pourrait dès lors réfléchir au paradigme sotériologique qu'une philosophie se choisit pour se penser elle-même et le sens que cela implique. C'est en effet pas la même chose de se penser comme ayant pour but de protéger, comme ayant pour but de guérir, ou comme ayant pour but d'ouvrir une ligne de fuite. Une fois ces formes de la salvation définies, il reste encore à montrer qu'il existe des paradoxes de la salvation. Ce que j'appelle paradoxe de la salvation, c'est que la manière dont la salvation se donne n'est pas simple, mais elle se donne par son contraire. La salvation n'est donc pas une simple conservation à l'identique d'une chose qui n'aurait qu'à persévérer dans son être, mais elle se donne dans l'élément de son contraire, ce qui peut se formuler par trois propositions. Je propose trois paradoxes de la salvation. Le premier, c'est que la corruption sauve, et qu'à l'inverse, le salut corrompt, ce qu'on pourrait appeler le paradoxe selon la cause. Donc, l'idée qu'il faut une certaine destruction pour se sauver se trouve, bien sûr, dans la notion un peu plus classique de sacrifice, qui est certes une notion religieuse, mais qui a des usages philosophiques chez Hegel, rapproché de la notion de dépense chez Georges Bataille, ou le bouc émissaire chez René Girard. On trouve même en économie, j'ai cru comprendre qu'il y avait des économistes, ce paradoxe dans la destruction créatrice de Joseph Schumpeter, qui est justement l'idée d'une destruction qui sauve d'une certaine manière l'économie. Et enfin, on trouve ce paradoxe de la destruction ou de la corruption qui sauve dans le symbole de la croix du Christ, qui est justement une mort qui annonce une résurrection. Ce paradoxe est à manier avec précaution. C'est un paradoxe dangereux, dans la mesure où il conduit à justifier, il peut conduire à justifier, dans une certaine mesure, le mal. Il est utilisé, bien sûr, dans le néo-darwinisme nazi. Donc, il s'agit de savoir comment faire pour que ce paradoxe n'entraîne pas une justification du mal, puisque eux aussi pensaient qu'il fallait que le faible meure pour qu'il y ait une nouvelle vie. Ce paradoxe de la destruction ou de la corruption qui sauve a un symétrique qui est l'idée que le salut corrompt, que le salut détruit. On peut le trouver dans le jugement éthique sur des manières indignes de survivre, survivre au détriment des autres, je me sauve mais je détruis les autres, ou dans la critique écologique des moyens par lesquels la civilisation capitaliste a assuré sa subsistance, précisément en détruisant ses propres conditions de vie. Le deuxième paradoxe de la salvation, c'est celui selon lequel l'événement est ce qui fait subsister, et à l'inverse, la subsistance est ce qui détruit. Paradoxe selon la modalité. On trouve l'idée que l'événement fait subsister dans le domaine théologique à travers le concept de création continue. Chez le pseudo-Denis l'Aéropagite, c'est bien une création qui fait subsister le monde. La subsistance des choses leur est donnée par ce qui est hyperousia, au-delà de la substance. Ainsi, la puissance suressentielle, dit Denis, conserve les rangs de l'univers et leur droite aspiration à leur bien propre. Elle maintient indemne les vies mortelles des énades angéliques ainsi que les essences des cieux, des luminaires et des astres, etc. Donc, ici, le point, me semble-t-il, c'est que la subsistance est donnée par ce qui est au-delà de la subsistance. Et donc, on trouve évidemment ce concept chez Descartes, qui rapproche encore plus clairement les concepts de création et de conservation dans la troisième des méditations métaphysiques. Je cite, en sorte que la lumière naturelle, nous fait voir clairement que la conservation et la création ne diffèrent qu'au regard de notre façon de penser, et non point en effet. Les choses doivent donc leur subsistance à une création continue selon ces deux auteurs. Ce paradoxe de l'événement qui fait subsister se trouve à son comble dans le domaine politique, dans l'idée de révolution, qui est précisément l'idée que l'événement est ce qui établit la justice, donc l'ordre véritable. Troisième paradoxe sotériologique, troisième paradoxe de la salvation, celui selon lequel le désœuvrement œuvre au salut, et à l'inverse que l'œuvre détruit, paradoxe selon la volonté. L'idée que l'œuvre détruit est claire dans la critique de la technique, comme arraisonnement du monde chez Heidegger, c'est-à-dire comme le fait que la technique va réduire ce qui se donne dans la nature à des paramètres, à des modèles, et ce faisant, va conduire à la dévastation. En ce sens, le monde que l'homme se fabrique détruit ses propres conditions d'existence. Plus il perfectionne son œuvre dans le monde, plus il se détruit potentiellement. Donc c'est la catastrophe climatique, représentée par de nombreux films, comme le récent fameux « Don't Look Up ». Et donc, la racine de ce schéma, selon lequel, en fait, œuvrer est ce qui détruit, se trouve peut-être dans la critique de l'affairement, de la polypragmosyné, le fait de s'affairer sans cesse et de ne pas se reposer. Qu'on trouve chez Platon, à la fin de la République, puisque la vie que Ulysse choisit et la vie de l'apragmonos, la vie qu'on pourrait traduire ainsi, la vie du désœuvré. On trouve un autre éloge du désœuvrement dans le prologue de Gargantua, qui définit Socrate par, je cite, « le déprisement incroyable de tout ce pourquoi les humains tant veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent. » Et donc, à l'inverse de l'afferrement, on trouve le paradoxe symétrique dans la proposition selon laquelle c'est un désœuvrement qui œuvre au salut. Chez Aristote, c'est dans le loisir de la contemplation que l'on peut devenir éternel, que l'on peut s'éterniser. Chez Blanchot, Maurice Blanchot, le désœuvrement est élevé au statut non plus de but réservé à l'élite citoyenne, mais au statut de fait. Il a eu lieu à travers ce qu'il appelle le désastre. Désœuvrement, déprisement, désastre tracent les contours d'une salvation qui ne passe pas par la fabrication, par la maîtrise et par la recherche d'un but transcendant. Je voudrais maintenant proposer deux thèses, beaucoup plus rapidement, deux thèses sotériologiques, deux thèses, disons, pour fonder une sotériologie philosophique. La première, c'est celle de l'immanence de la salvation, par opposition au salut qui serait transcendant. Il est au moins trois phénomènes que l'on peut analyser comme témoignant de l'immanence de la salvation. Le premier, c'est le phénomène du répit. L'immanence de la salvation, le fait que la salvation est déjà là, qu'elle se donne déjà, s'approche lorsque l'on se conçoit soi-même comme en état de non-mort. Nous sommes non-morts, et non seulement vivants, car la mort, comme l'a montré Heidegger dans Être et Temps, n'est pas l'après de la vie, mais elle détermine déjà la vie, car elle est ce qui détermine l'ouverture de notre vie à l'impossible, et donc à l'événement. Autrement dit, et cela contre Heidegger, vivre, c'est être en répit. L'imminence de la mort implique l'immanence de la salvation. Que nous soyons des êtres vers la mort implique déjà que nous ne soyons pas encore morts. Cette vie qui nous reste est un écart avec la mort et donc en ce sens une salvation. La salvation est un reste. L'être vers la mort est un être en reste. Il ne subsiste pas identique à soi, mais dans le lambeau de vie qu'il arrache à chaque instant à la mort qui guette, à l'égard de laquelle il a un certain devoir du fait de son caractère inéluctable. Cette existence en répit se donne à travers un certain sentiment, le soulagement que nous ressentons quand d'autres sont frappés par la catastrophe. Certes, nous ressentons l'angoisse que cette mort nous arrive, et pourquoi pas de la compassion à l'égard des autres victimes, mais nous ressentons aussi notre privilège d'être encore en vie. Lucrèce écrit ainsi, je cite, « Il est doux, quand sur la grande mer les vents soulèvent les flots, d'assister de la terre aux rudes épreuves d'autrui, non que la souffrance de personne nous soit un plaisir si grand, mais voir à quel mot on échappe soi-même est chose douce. » Deuxième phénomène de salvation immanente, la respiration. Dans l'immanence, la salvation se donne de manière continue, ou plutôt rythmée, par le phénomène de la respiration. La salvation qui se donne à travers la respiration est une pulsation de relève, non une relève finale, qui accomplirait notre être. Notre corps se relève en permanence et en même temps de manière discontinue, inspiration, expiration, de la torpeur de la mort qui nous achèverait en quelques instants sans ce rythme salutaire. Lorsque nos poumons font entrer l'air dans notre corps, il n'y a pas seulement un déplacement de gaz, les particules d'oxygène viennent empêcher que notre cerveau s'éteigne. Cela signifie que notre corps n'est pas un isolat. Il tire sa subsistance du dehors, non pas momentanément, lorsque nous mangeons par exemple. La nutrition pourrait être analysée comme un phénomène de salvation aussi, mais constamment, à chaque inspiration. Notre corps n'est donc pas un point dans l'espace, mais il est déjà une portion de l'espace qui se sauve précisément par son ouverture à l'environnement. Troisième phénomène de salvation immanente, la souffrance. On a vu plus haut que la philosophie naît à partir de l'épreuve d'un certain mal, comme négation de ce mal initial. Ce qui est une manière de dire que la souffrance que la philosophie implique, indépendamment de la joie qu'elle procure aussi, cette souffrance donne quelque chose. La souffrance est irréductiblement un phénomène négatif. Et il est grotesque que le philosophe cherche à le déplacer par le concept. Mais la souffrance est une sorte de nœud, disons, entre deux fils contradictoires. Celui de la blessure, qui est un amenuisement, et celui de la sensation de souffrance qui manifeste au contraire le maintien d'une vie. C'est sans doute ce deuxième fil qui faisait dire à Emmanuel Lévinas que, je cite, « la souffrance est l'impossibilité du néant ». Phrase vraiment incroyable. Ainsi, lorsque je marche pieds nus sur une punaise, la douleur que le métal qui pénètre ma chair m'inflige est à la fois l'indication objective que cette partie de mon corps est endommagée et en même temps l'épreuve aiguë de sa vitalité qui résiste à la blessure. Pour finir, je voudrais proposer une deuxième thèse de sotériologie philosophique qui est celui de l'antériorité de la salvation, le fait que la salvation est première. Là encore, on peut trouver trois phénomènes qui marquent cette antériorité de la salvation sur l'être. Le premier, c'est le phénomène de naître, la naissance. Claude Vigée rapporte cette parole de Saint John Perse, que je vous lis. Le feu divin, dit-il, m'apparaissait déjà dans l'immédiat du monde. Je n'avais besoin d'aucun intercesseur, sinon de ceux-là même dont notre univers se constitue ici-bas. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me sentir tout à fait chrétien. Comme les vrais enfants de Dieu, comme les vrais enfants des îles, pardon, je suis sauvé de naissance. Je suis sauvé de naissance. Donc, notons, s'il est besoin, que l'idée d'une sotériologie, l'idée d'une préséance de la salvation sur l'être n'est pas en soi chrétienne. Elle peut être même utilisée, on le voit dans ce texte, contre le christianisme. Ainsi, « je suis sauvé de naissance » n'est pas une phrase de nature religieuse, mais phénoménologique. Il ne s'agit pas de dire que le poète a une sorte de grâce élective qui l'aurait distingué des autres, mais que la naissance elle-même est déjà une salvation. Sans doute, toute naissance est-elle une salvation, car elle consiste à s'arracher à la matrice de tout mal qui est le néant. Naître, c'est sortir du néant. Évidemment, c'est valable pour la naissance au sens figuré. Quand on dit de quelqu'un, après une longue période de dépression, qu'il a connu une nouvelle naissance, cela signifie qu'il s'est sauvé du mal qui le rongeait. Mais c'est valable, me semble-t-il, si on tente une description de la naissance au sens littéral. Ainsi, notre naissance n'a pas été seulement le passage d'un intérieur caché à un extérieur manifeste. Notre naissance n'est pas seulement une manifestation. Elle est aussi, et plus profondément, une salvation, car elle est le passage risqué d'un milieu autrefois hospitalier, mais devenant potentiellement dangereux, pour passer à un espace qui donne à chaque chose sa place. Deuxième phénomène de salvation qui en montre l'antériorité, le fait qu'elle est toujours déjà là, le fait de s'éveiller, le fait de se réveiller. Nous avons montré le caractère permanent de la salvation en analysant la respiration. Si on analyse ce que signifie s'éveiller, on peut à la fois confirmer le caractère quotidien de la salvation et en plus montrer que la salvation connaît des degrés. En effet, s'éveiller est pour la conscience se tirer du néant. Ce qui signifie que pour qu'il y ait une conscience, il faut qu'il y ait déjà eu une salvation. Ainsi, Nietzsche, dans le Gai Savoir, dit que la conscience est, je cite, « la conséquence d'une terrible nécessité qui a longtemps dominé l'homme. Étant l'animal qui courait le plus de dangers, il avait besoin d'aide et de protection. Il avait besoin de ses semblables. Il était forcé de savoir exprimer sa détresse, de savoir se rendre intelligible. Et pour cela, il lui fallait d'abord la conscience. » Il lui fallait savoir lui-même ce qui lui manque, savoir quelle est sa disposition d'esprit, savoir ce qu'il pense. On voit bien que la conscience est une manière de se sauver. S'éveiller est une manière de se sauver. Or, l'éveil est plus ou moins grand. C'est-à-dire occupe une plus ou moins grande portion d'espace. On a plus ou moins conscience d'un espace ample ou pas. L'éveil suppose une prise de conscience. Ce qui est à entendre, cette prise, comme dans le domaine militaro-juridique, on parle d'une prise de terre qui précède toujours déjà le droit, chez Carl Schmitt par exemple. Donc la conscience aussi consiste à s'approprier un espace. Prendre conscience de la salle dans laquelle on se trouve consiste à connaître chacun des détails qui composent cette pièce. Et donc, à la racine de la conscience, il y a l'appropriation d'un espace, avant même qu'on y réfléchisse, pour que les idées que l'on s'en fait soient claires et distinctes. Troisième et dernier phénomène de salvation, le simple fait de se manifester. La salvation déborde la manifestation. Elle est le point aveugle, le point zéro de la manifestation. Le fait qu'une chose se manifeste. Qu'une chose se manifeste signifie qu'elle s'est déjà arrachée à la nuit de l'invu. La manifestation est une certaine échappée. S'échapper signifie proprement, selon le trésor de la langue française, quitter la chape, jeter le froc aux orties, ou sortir de la chape en la laissant aux mains du poursuivant. Autrement dit, se manifester, c'est à la fois enlever ce qui recouvre, et en même temps, c'est fuir, ce qui est une modalité essentielle de la salvation qu'on a vue plus haut. Telle est, en somme, la grâce qui précède toute chose. Pour que cette table soit devant moi, il faut déjà que lui soit donnée, grâce première et élémentaire, une portion d'espace. Plus précisément, se manifester, c'est se donner à soi-même un espace. Et on voit bien le sens politique que ça peut avoir. Par exemple, on pose souvent la question du but d'une manifestation, cette fois-ci non pas au sens de la manifestation d'une chose, mais d'une manifestation populaire. À quoi ça sert ? Par exemple, au Liban où j'habite, des centaines de milliers de personnes se sont manifestées à partir du 17 octobre 2019 contre le régime politique actuel. Et il n'en est, jusqu'à aujourd'hui, rien sorti. Donc on se dit, mais à quoi ont servi ces manifestations. Et à cela, on peut répondre, si on admet ce que j'ai dit avant, que le simple fait que ces manifestations aient eu lieu, au moment même où elles avaient lieu, signifiait qu'une salvation s'était déjà effectuée, car les vieilles divisions, les vieilles paralysies, qui empêchaient, par exemple, qu'un sunnite et un chiite pensent ensemble la politique, avaient d'ores et déjà été surmontées. Pour conclure, je voudrais souligner le fait qu'on peut, à mon sens, non seulement défendre l'idée d'une sotériologie philosophique, mais aussi que la sotériologie peut avoir en philosophie une certaine primauté. La sotériologie est une discipline philosophique qui peut prétendre à une primauté, car précisément pour qu'une chose soit, la métaphysique a montré que ce qui est premier, et non pas sa matière, mais la forme qui articule cette matière. Ce qui est premier était ainsi sa substance, qui assure à la chose sa subsistance. Puis, on a montré que pour qu'il y ait une forme, pour que les choses aient une forme, il fallait déjà qu'il y ait une différence entre cette chose et une autre. Chez Jacques Derrida, différence écrivant avec un A. Ou une donation de cette forme, par exemple, chez Jean-Luc Marion. Donc, la sotériologie permet de décrire ce qu'il y a de premier dans la différence ou dans la donation. Et ce qu'il y a de premier, c'est la salvation. En effet, si la donation délivre l'être, alors cette délivrance et donc cette forme de salvation est à la racine de tout ce qui se donne. La salvation est ce qu'il y a de premier dans la donation. Elle est le point de non-contact entre le néant et l'être, ce qui conduit à distinguer dans la donation des choses au moins trois niveaux. Le niveau premier de la salvation, le niveau second du jaillissement et un troisième niveau qui serait celui de l'apparition. Ces trois niveaux sont parfois confondus Alors que si la donation est bien un certain mouvement d'advenu au monde, ce mouvement a plusieurs étapes. La première étape par laquelle une chose est, c'est de se délivrer, c'est une certaine libération. Et donc, la salvation en ce sens, et par conséquent, la sotériologie peut prétendre à une certaine primauté en philosophie. La sotériologie, ainsi, et c'est mon dernier mot, est l'analyse de cet écartement initial, ce sauvement qui donne lieu à tout ce qui est.
Eh bien, je vous remercie. J'ai reconnu le style et la culture d'un collègue philosophique. Eh bien, bon, la philosophie est ce qui est digne d'être discuté, ce qui est discutable, mais au sens positif du terme, c'est-à-dire ce qui mérite qu'on en débatte. Eh bien, nous avons dans ce cadre déjà quatre questions. La première étant celle de Chantal Delsol.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Paul, de cette belle analyse qui m'a beaucoup intéressée. C'est juste une question. Au fond, l'idée de salut répond à l'idée de perte, à l'idée d'échec, à l'idée d'imperfection, d'une manière générale. Après, évidemment, on peut décliner. Autrement dit, à la finitude humaine, sinon on n'aurait pas ce genre d'idée. Donc c'est donc une idée anthropologique, et par conséquent, il y a ici de la philosophie, si on peut dire, parce que c'est profondément anthropologique. Alors, ma question est la suivante. Que pensez-vous de ces courants contemporains, ou de ce courant contemporain, je ne sais pas s'il faut le mettre au pluriel ou au singulier, qui prétend, qui veut qu'il n'y ait pas de salut, qui dit qu'il n'y a pas de salut, qu'il ne doit pas y en avoir à la limite, qui provient, à mon sens, de Günther Anders, enfin, c'est comme ça que je le vois, l'obsolescence de l'homme, enfin, si on traduit bien, c'est plutôt l'homme à l'état d'antiquité, et qui, comme vous savez, écrit d'autres livres comme La haine à l'état d'antiquité, etc. Et donc, il ne faut pas de salut pour toutes sortes de raisons, vous connaissez, et donc, aujourd'hui, on a tout un courant. On pourrait dire Sloterdijk, Agamben, le temps du délai, le temps du sursis. Enfin, Žižek a écrit un texte qui s'appelle Sauvez-nous des sauveurs. Donc, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce courant.
Merci beaucoup, Chantal, pour votre question. Effectivement, on peut repérer dans la philosophie contemporaine une prétention à ne pas traiter la question du salut. Mais à mon sens, c'est parce qu'on présuppose que le salut, c'est le maintien de soi-même après la mort. Autrement dit, le salut au sens religieux. Mais en réalité, si vous prenez par exemple le titre « Se sauver de nos sauveurs », c'est en fait la recherche précisément d'une salvation. C'est-à-dire comment faire pour, en l'occurrence, construire un mouvement révolutionnaire sans être inféodé à un chef fut-il révolutionnaire qui, par le simple fait d'être un chef, détruit déjà le mouvement révolutionnaire. Et donc, je pense que ce qu'il faut repérer dans la philosophie contemporaine, c'est tout autant que le refus du salut, la recherche de la salvation. C'est-à-dire la recherche d'une autre manière de se sauver de certaines destructions, qui ne passent pas par l'identité, qui ne passent pas par le maintien de soi à l'identité, mais qui passent par exemple par la transformation de soi, par exemple par évidemment la révolution. Et donc, c'est des idées, ce qui se recherche, ce sont des idées neuves de la salvation. Et à mon avis, ça vient déjà avec Nietzsche. C'est-à-dire que la critique de l'éternité chez Nietzsche est très, très puissante. Au fond, il dit, si vous cherchez l'éternité, vous cherchez à être toujours identique à vous-même, et donc vous cherchez la mort. Et donc ce que la métaphysique et la religion nous proposent en nous proposant l'éternité, c'est en fait un désir de mort. Et donc, mais justement, il s'agit pour Nietzsche de se sauver de ce désir morbide en accédant au jaillissement continu de nouveautés dans l'éternel retour. Et quant à Agamben, qui joue un grand rôle dans mon propre parcours philosophique, il dit très clairement que il a écrit un petit livre de mémoire, que lui, ce qu'il cherche, c'est à se sauver hors de l'Église. Mais il s'agit bien de se sauver.
Je vous remercie. Rahim Corsia.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour ces considérations. J'avais trois petites questions à vous poser, parce que, d'abord, un peu fièrement, j'aime bien me retrouver dans ce que les conférenciers nous exposent, et notamment sur trois séquences qui étaient importantes, me semble-t-il. Dans ce syllogisme que vous avez présenté, celui qui affirme qu'il n'y a pas de vérité, il ne peut pas le dire, puisque disant qu'il n'y a pas de vérité, il affirme que ce qu'il dit n'est pas vrai, et c'est problématique. En revanche, si on dit « il n'y a pas une seule vérité », ce qui est le cœur du débat interreligieux. Moi, je ne veux pas convaincre les catholiques qu'ils ont tort, convaincre les protestants qu'ils ont tort, les musulmans qu'ils ont tort, les athées qu'ils ont tort. Pas du tout. Chacun a donc sa part de vérité, légitime, reconnue. C'est le cœur même de ce que fait le Concile Vatican II, qui change la doctrine de l'Église en disant y a une part de vérité dans toutes les fois, et d'ailleurs, notamment vers le judaïsme, puisque reviennent à ces liens. Donc, vous voyez, la phrase, autant j'accepte votre raisonnement sur il n'y a pas de vérité, autrement dit, mais dire il n'y a pas une seule vérité, ça donne la possibilité qu'il y ait plusieurs vérités. Et au fond, c'est ce qui permet de faire société en temps différent. La deuxième question, celle qui me touchait le plus, quand vous avez parlé de la salvation, c'est votre terme, par le désœuvrement. Et j'ose pas le dire devant certains de mes éminents confrères, mais ne serait-ce pas une allusion au Shabbat, où on est dans le désœuvrement organisé, et le Shabbat sauve, dans la mesure où Dieu dit « faites le Shabbat et moi je m'occuperai de vous », un peu comme les Hébreux dans le désert reçoivent la double part de la manne le vendredi, la veille, pour dire « pas la peine de sortir le Shabbat, aller chercher la manne qui tombe du ciel, je m'occuperai de vous ». Donc le désœuvrement est salvateur, mais parce que il s'engage dans une confiance en Dieu. Donc le désœuvrement, c'est toujours une confiance en l'autre. D'une certaine manière, les sachants font confiance à la société pour s'occuper d'eux, alors qu'eux s'occupent à travailler, à étudier, donc à ne pas produire. Ils produisent autre chose. Et troisième point, là c'est celui qui m'a légèrement fait bondir, non pas parce que je me suis vu dans un exemple que j'ai trouvé très vécu, de celui qui marche sur la punaise.
Oui. Vous l'avez vécu aussi.
Et malheureusement, j'ai senti quelque chose de très vivant. Et le seul risque de votre démonstration, qui est très juste, la punaise, c'est qu'il y a le risque majeur d'en venir à produire un système doloriste. Et moi, quand je marche sur une punaise, la première chose à laquelle je pense, c'est la prochaine fois, range les punaises. Et donc, il n'y a pas forcément... Vous voyez, parce que si on dit qu'on ne peut penser que dans la souffrance... C'est tourner le dos à toute la philosophie de la joie, non pas la joie factice, mais la joie recherchée, c'est-à-dire ce principe qui nous dit construire la joie plutôt que la consommer. Et ça, c'est le véritable point qui m'a fait réagir un peu plus autrement qu'en sursautant à cause de la punaise dans mon pied.
Merci beaucoup pour ces trois remarques. Effectivement, je commence par la dernière. Non, je commence par la deuxième. Le désœuvrement, j'ai oublié le Shabbat. Évidemment, je ne peux que communier à cette remarque. Sur la vérité, en fait, on pourrait dire, et finalement, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui, qu'il n'y a pas un seul salut. Ou plutôt, il n'y a pas une seule salvation. Et on peut repérer différentes stratégies, différentes formes, différents paradoxes de salvation. Et on peut penser les systèmes philosophiques, mais aussi les systèmes politiques, à partir de la manière dont ils se conçoivent eux-mêmes comme cherchant à se sauver ou cherchant à sauver les hommes. Et c'est en cela que la sotériologie peut être une discipline authentiquement rationnelle. Sur le système doloriste, vous avez raison, c'est un grand danger, en fait, de tous les paradoxes, de tous les paradoxes sotériologiques que j'ai mentionnés. dont on ne se sort que par un, je ne sais pas trop comment en fait, par l'idée de qu'il y a un certain seuil. C'est-à-dire que le fait que la douleur nous donne à sentir que notre vie se maintient ne doit pas se transformer en un éloge de la douleur. Le fait que la philosophie commence par la douleur ne doit pas se transformer en un éloge morbide de cette origine douloureuse de la pensée. Autrement dit, il s'agit de partir de cette douleur et d'en partir au sens d'y avoir son point de départ, mais justement pour aller ailleurs.
Pardon, je ne sais pas si le président m'y autorise.
Oui, il vous autorise.
Parce que ce que vous dites, nous sommes dans mon calendrier à 5 jours de la Pâque, ce qui me permet de souhaiter à tous mes éminents confrères et mes consoeurs, éminentes aussi également, bien entendu, joyeuses fêtes de Pâques. Or, Pâques, c'est pour nous la sortie de l'enfermement de l'Égypte. En fait, oui, au départ, il y a un enfermement, c'est-à-dire une limitation, et sortir, c'est chercher, non pas simplement comment sortir, mais comment, malgré l'enfermement, aller vers l'espérance, vers la joie. Donc, oui, il y a une douleur, mais elle n'est pas acceptable, elle n'est même pas encourageable, elle est ce qui nous sert de départ.
Je suis d'accord.
Bon. Voilà une réponse bien laconique. Très bien. Xavier Darcos.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais remercier à mon tour Monsieur Colera pour cet exposé extrêmement complexe et qui donne beaucoup à penser. Je voudrais poser une question un peu de béotien. En l'occurrence, dans l'essentiel de votre pensée, il m'a semblé que votre réflexion sur le salut, quel que nom qu'on lui donne, salvation ou autre, est quand même très proche de la théologie du salut. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une pensée qui est extrêmement proche de la construction spirituelle que le christianisme a élaborée à travers son histoire, ce qui évidemment est tout à fait intéressant. De ce point de vue-là, peut-être j'aurais été intéressé de savoir ce que vous alliez dire, ou vous pourriez dire de la question centrale pour le chrétien, qui est la question du salut universel. On ne se sauve pas seul si on est dans un système de pensée théologique. C'était ma première question. Ma deuxième, alors, en revanche, ça c'est plutôt une surprise, c'est que pour moi, enfin, les souvenirs que j'en ai, la sotériologie, la première des sotériologies, telle qu'on la voit par exemple dans le Timée, c'est une réflexion aussi sur le pythagorisme et la métempsychose. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement un salut qui serait ascensionnel ou qui serait une espèce de sublimation qui serait au fond la partie la plus subtile de l'être qui se transformerait en éternité. Il y a aussi cette autre option qui a tellement occupé la pensée antique et qui est la métempsychose, la réincarnation. La référence au pythagorisme a été une des clés de la lecture du monde ancien. On le trouve dans toutes les religions à mystère, on le trouve dans le 15e chant des métamorphoses d'Ovide. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au moment où Pythagore enseigne la métempsychose, il a un contemporain absolu qui est à l'autre bout du monde, qui est Bouddha, qui dit la même chose. Et donc je me posais la question de savoir si cette conception du salut comme une sorte de réincarnation qui n'est pas une réincarnation qui fait descendre, mais qui est ascendante aussi, qui est spiralaire en quelque sorte. Petit à petit, on finit par monter à travers des réincarnations supérieures, pouvait prendre sens dans votre réflexion globale. Ça m'intéressait d'autant plus de vous poser la question que j'ai trouvé que votre fin était très inspirée de Jean-Luc Marion sur la donnée et que je vous trouvais trop basculé de ce côté-là, si je puis dire. Je voulais vous ramener un petit peu à Platon et à Pythagore plutôt qu'à cette tendance-là que je respecte évidemment, mais qui m'a paru très marquée quand même. Je ne sais pas si je me trompe, mais enfin, voilà.
Effectivement, il y a des traces de marionnisme dans ma conclusion. Ça se soigne, paraît-il. Effectivement, il faut que je réfléchisse à ce que vous avez dit sur le pythagorisme et la métempsychose, mais ça rejoint ce que l'on disait à l'instant, c'est-à-dire que, en réalité, la sotériologie permet de faire une sorte de taxinomie des différentes manières qui ont été envisagées par l'humanité pour se sauver. Et en cela, la sotériologie n'est pas réductible à une tradition religieuse particulière. C'est-à-dire qu'elle peut être un outil pour les analyser de manière extérieure, sans présupposer qu'il y aurait une bonne manière de se sauver, du moins sans l'admettre a priori. Donc la métempsychose est une manière de définir la sotériologie, le salut qui s'oppose à la résurrection. Et effectivement, alors après, vous sembliez dire que c'était une manière païenne de concevoir le salut. Et ce qui est important, je pense, parce que quand on dit le salut est une question religieuse, on ne peut pas signifier par là que ça n'est qu'une question chrétienne ou juive ou islamique. En fait, c'est une question religieuse vraiment, vraiment extrêmement large. Et les païens, par conséquent, ont aussi ce problème de comment se sauver. On ne se sauve pas seul. Je pense qu'effectivement, la dimension universelle de la question de la salvation est aujourd'hui une évidence mortelle, si je puis dire. C'est-à-dire que, disons, la manière, en petit sotériologue que je suis, d'avoir compris la crise du coronavirus, c'était au fond de me dire qu'on a vu que ce qui se passait à un point du globe terrestre avait des implications sur ce qui se passe au point que nous occupons. La notion de pandémie, c'est l'idée que nous sommes solidaires dans la manière dont on va se sauver. Et la solidarité n'est pas une valeur morale. C'est d'abord une notion ontologique. C'est-à-dire que nous sommes de facto liés tous les humains entre nous sur cette question précise de comment se sauver en l'occurrence d'une maladie. Et la guerre actuelle en Ukraine pose également cette question. L'usage de la bombe atomique, c'est aussi la question des effets sur l'humanité complète de telles armes.
Merci. Jean Béchler.
Merci, Monsieur le Président. Vous nous avez fait bénéficier, monsieur, d'une merveilleuse leçon de philosophie. Pour en jouir pleinement, il faut être philosophe, comme vous, et aussi intelligent que vous. Quand on n'est pas philosophe et pas aussi intelligent que vous, on court le risque même de s'y perdre un peu dans le dédale de votre argumentation. Alors, serait-il possible, de ramener ce que vous avez dit à une position qui s'énoncerait à peu près comme ceci? C'est une question que je vous pose, hein, je n'ai pas la réponse. Salvation implique, me semble-t-il, logiquement, trois moments. Pourquoi faut-il que les étangs aient besoin d'être salvifiés? Je ne sais pas comment il faut dire. Deuxièmement, d'où peut venir la salvation? C'est ça, la salvation. Et troisièmement, résout-elle le problème entièrement? Alors, si on pose la question en ces termes, je vois naître, en tant qu'historien, si vous voulez, et de spécialiste des civilisations comparées, trois réponses radicalement différentes. Sur le premier point, sans doute, les étangs étant contingents, ils ont des problèmes. Si vous voulez. Et à qui peuvent-ils en référer? À l'absolu, qui échappe, si vous voulez, qui n'a pas besoin d'être sauvé. Or, il y a trois possibilités. Si les étangs sont des créatures d'un Dieu personnel créateur, c'est de ce côté-là qu'il faut chercher le salut. On a une deuxième possibilité, radicalement différente, qui consiste à affirmer qu'il n'y a que l'ensemble en devenir perpétuel, sans commencement ni fin, de devenant contingent. Et enfin, vous avez une position tout à fait subtile qui consiste à affirmer qu'il y a d'une part un absolu, impersonnel, et d'autre part, il y a, comme dans le cas précédent, l'ensemble en devenir perpétuel de devenant contingent. Mais l'originalité de cette troisième position consiste à dire l'absolu inhabite les contingents. Alors, comme vous savez, la première position est typique de l'Asie antérieure et de l'Europe, la deuxième de la Chine et la troisième de l'Inde. Alors, de là, on déduit très facilement que d'où peut venir le salut. Alors bon, je cours à la conclusion, de Dieu, ou bien de soi-même, des existants eux-mêmes, et qui doivent s'efforcer de se dépouiller de leur gang contingente pour s'identifier à l'absolu qu'ils sont déjà. Et troisièmement, en fait j'ai un peu inversé, la solution consiste dans ce que j'appellerais un éthicisme, c'est-à-dire remplir son métier humain de la meilleure manière possible à la place que le sort vous a attribuée. Alors, jusqu'où va dans ces trois idées la salvation? Du premier côté, un Dieu créateur, ça pose des problèmes. Enfin, bon, on ne devient pas Dieu. Et puis tout le monde n'est pas susceptible d'être sauvé. Donc il y a matière à discussion. Le deuxième, du côté indien, on retrouve ce que disait M. le chancelier, on ne peut pas réussir d'un coup et du premier coup à se dépouiller de sa gang. Il y faut plusieurs vies, peut-être un nombre, non pas infini, ça n'existe pas, mais très, très abondant de vies. Quant à la troisième solution, le salut ne peut pas être complet. Forcément, il y a toujours des problèmes qui se posent, et par conséquent, la salvation, je répète, doit se fonder sur l'éthique, mais ça ne permet pas d'espérer un salut social et définitif. Alors, est-ce que vous voyez un peu ce que
très
je
bien.
Dis C'est naïf, c'est le traitement d'un sujet de baccalauréat, enfin, par quelqu'un, d'un sujet de philosophie de baccalauréat, je le
traiterai
de cette manière-là.
Ah non, pas du tout, pas du tout, enfin. Vous plaisantez, c'était... Effectivement, en fait, ce que j'entends dans votre question aussi, c'est qu'il faut que le philosophe s'intéresse plus à l'histoire, et notamment à l'histoire des civilisations, et à la manière dont hors de la philosophie... Voilà, mais ah oui, d'accord. Ouais. Hélas. En fait, votre question, c'est votre question qui est trop intelligente pour moi et trop difficile pour moi. C'est-à-dire que la sotériologie telle que je la définis procède d'une certaine réduction, précisément de cette question. C'est-à-dire que avant même de s'interroger sur la cause de la salvation, il faut déjà la définir, en définir les formes, en définir les paradoxes, et on ne peut accéder à la question de la cause qu'une fois qu'on a réduit le phénomène de la salvation à sa pure phénoménalité. Donc, une fois qu'on décrit la salvation en elle-même, la question de la cause de la salvation est une question que pour l'instant, je n'arrive pas à traiter philosophiquement, même si je la traite.
Mettez votre micro, Jean.
Il faut avoir une conception, si vous voulez, de l'être. Vous avez utilisé le mot être. Personnellement, je n'aime pas beaucoup, mais je ne suis pas philosophe. Je préfère exister comme saint Thomas d'Aquin, si vous voulez. Mmh. Parce que être, c'est ambigu. On ne sait pas exactement si c'est l'existence ou l'essence ou les deux. Alors, exister, là, on sait de quoi il s'agit. Eh bien, exister, il y a plusieurs manières d'accéder à l'existence, si vous voulez. Donc, je crois que la sotériologie est seconde, je veux dire, philosophiquement, par rapport à l'ontologie qui doit venir en premier.
Ouais.
Ce sont des questions naïves, enfin.
Bon. Non, mais pas du tout. C'est...
Quel menteur.
Si la naïveté était ainsi... Justement, au fond, notre position est celle-ci. C'est-à-dire que moi, j'estime que la sotériologie est première et vous, l'ontologie. Et donc, me semble-t-il, la raison pour laquelle la sotériologie est première sur l'ontologie, c'est que pour être, il faut déjà être sorti, il faut déjà être sorti du néant. Et donc l'être même, ou l'existence même, suppose une certaine sortie. Exister, c'est sortir de quelque chose. Or, la sortie, c'est l'une des formes de la salvation, qui est précisément la fuite. C'est-à-dire qu'il n'y a des temps que parce qu'il y a déjà une certaine fuite à partir du néant, et donc une salvation. Grâce à vous, je vais m'intéresser plus à l'Asie. Merci à vous.
Je vous remercie. Il n'y a pas d'autres questions, semble-t-il. Alors, je vais me permettre, je vais me donner la parole, me remercier d'ailleurs de l'accepter, et vous poser quelques questions. D'abord, si j'ai pensé à vous, je l'ai un petit peu expliqué au début, c'est que justement, vous avez le courage d'essayer de penser la notion qui est, donc que j'ai choisi de mettre au centre de cette année, d'une manière résolument philosophique. Bon. Or ça, ça peut se faire de plusieurs façons. Vous avez choisi une approche conceptuelle, et vous avez fait, vous avez quand même fait allusion à la possibilité d'une approche, disons, historique, de l'histoire de la philosophie, bien entendu, pas de l'histoire en général, si je puis dire, encore moins de la fameuse histoire bataille dont on a fait un slogan négatif. Non, je veux dire par là que il est de fait, et vous en avez donné certains exemples, que certains philosophes, et pas nécessairement des moindres, mentionnent quelque chose comme une entreprise de, alors disons, de salvation. Pourquoi ne pas accepter ce mot, hein, il est finalement plus français qu'anglais, et il est devenu anglais parce que les Anglais nous ont lâchement volé ce vocable, nous-mêmes l'ayant lâchement volé au latin d'ailleurs. Eh bien, il est de fait que Platon, par exemple, définit au livre 10 de la République le bien, qui n'est pas n'importe quel concept chez lui, enfin, c'est quand même vraiment le sommet de sa réflexion, même si ce sommet est plutôt formulé à la fin du livre 6 que dans le livre 10, mais enfin, il définit le bien comme « to sozon », ce qui sauve. Alors, je ne sais pas s'il faut traduire le salutaire, ou en tout cas, ce qui maintient dans l'être. Bon. Là, nous allons retomber sur justement la question de l'être, à laquelle je vais revenir, si vous me le permettez. Je vous ai signalé l'existence d'un texte que j'ai moi-même lu très récemment, je dois l'avouer. C'est le tableau de Cébès, une œuvre philosophique d'un contenu pas extraordinairement profond, mais enfin intéressant, et qui est, comme son nom, enfin, qui n'a rien à voir avec le Cébès qui fait des objections à Socrate dans le Phédon, mais qui est un personnage que nous ne connaissons pas, qui a choisi d'emprunter cette identité vers le deuxième siècle de notre ère, à peu près. Alors, c'est un tableau au sens propre du terme, c'est une description de tableau, un tableau évidemment à contenu totalement allégorique, c'est ce qu'on appelait, en termes techniques grecs, une ekphrasis, description d'un tableau, et qui parle de la vie philosophique, et qui emploie à, je crois, 10 reprises le vocabulaire du salut pour dire que la philosophie apporte à son disciple, enfin à celui qui s'engage dans l'entreprise philosophique, un salut. Bon. Alors, la question que je voudrais poser, c'est, elle a un arrière-plan plus général qui est celui du rapport entre la pensée philosophique, même la pensée la plus la plus abstraite, et bien une certaine atmosphère, une certaine ambiance, l'allemand dirait Stimmung, ça serait commode, disons de la culture d'une certaine époque. Car il est de fait qu'à cette époque, deuxième siècle, bien apparaissent les religions que l'on appelle communément religions de salut. Bon, nous avons eu un exposé à ce sujet au tout début de nos réflexions, le 10 janvier, je crois, non, le 3 janvier, le 3 janvier. Et bon, on a l'impression que la philosophie, alors que ce soit dans cette œuvrette, qui a été d'ailleurs très, très diffusée parce que elle servait aussi de lecture facile, que le grec dans lequel l'œuvre est rédigée est assez facile. Donc ça a été constamment réédité à partir de la Renaissance pour servir non seulement d'initiation philosophique, mais d'initiation linguistique. Eh bien, on trouve ça là-dedans, on trouve également des notions qui ressemblent étrangement au salut, que le mot y soit ou pas, eh bien, disons dans la philosophie populaire, enfin, le mot n'est pas à prendre un sens péjoratif, de cette époque. Bon, Sénèque, un petit peu avant, bon, est une sorte de prêcheur et de théoricien, de guide spirituel qui vise au salut de son disciple, Lucilius ou un autre. Bon. Il y a toute une atmosphère. Alors j'aimerais savoir, ça sera donc ma première question, si vous avez trouvé d'autres traces de cette, au moins de cet usage du vocabulaire du salut chez des philosophes postérieurs. Je ne sais pas, le début du traité de la De Emendatione de Spinoza respire, si vous voulez, une sorte de d'inquiétude spirituelle, je ne sais pas comment dire. Enfin, il faut trouver un bien qui soit capable de nous sauver. Donc, première question. La deuxième question, bon, elle est plus vaste. J'ai l'impression que vous avez voulu ratisser très large avec la notion de salvation. Je me demande si la compréhension du concept n'a pas un petit peu souffert. Bon, ça, c'est une suggestion pour améliorer votre réflexion. Et puis, troisième, donc, c'est peut-être pas une question, mais c'est une suggestion, une remarque. Troisième observation, vous avez, et vous venez de le redire, problématisé le rapport entre ontologie et sotériologie en disant que, et c'est une thèse que Jean Béchler a eu raison de soulever, de souligner, car elle est provocatrice et elle donne beaucoup à penser, vous avez formulé une sorte de primat de la sotériologie par rapport à l'ontologie, en faisant remarquer que être, c'est déjà avoir échappé, si je puis dire, au néant. Bon, comme on voudra dire, hein, ma formulation vaut ce qu'elle vaut. Je me demande si vous n'auriez pas intérêt à entrer en discussion avec Bergson, et plus précisément avec sa critique de l'idée de néant, telle qu'il la développe dans le quatrième livre, le quatrième chapitre, je ne sais plus, enfin la quatrième partie en tout cas, de l'évolution créatrice, hein, qui est probablement son chef-d'œuvre. Il fait remarquer en effet que on s'imagine que l'idée de néant est plus simple que l'idée d'être. Hein, bon, Leibniz disait, bon, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que du néant, étant donné que le néant est plus simple et plus facile que l'être. Or, Bergson, comme assez souvent dans son style philosophique, si je veux dire, retourne la question et fait remarquer que finalement, il y a dans l'idée de néant plus, puisque on suppose, on se donne déjà qu'il existe quelque chose, et ensuite on l'efface. Donc l'idée de néant, c'est l'idée d'être plus une gigantesque croix qui biffe l'idée d'être. Alors je crois qu'il faudrait, pour bien établir votre pensée, que vous entriez en discussion avec Bergson et éventuellement que vous l'envoyiez dans les cordes. Bon. Une petite remarque aussi, si je puis me permettre, mais enfin comme je suis le président, je me permets, sur le sabbat, hein, sur le Shabbat, hein, grâce à Chaim Korsia, eh bien effectivement, nous avons pu voir que il y a une positivité du désœuvrement. C'était votre idée aussi. Hein, et, je crois qu'il est, il est intéressant de remarquer que lorsque le premier récit de la création, au début de la Genèse, mentionne le Shabbat, il dit que Dieu s'est reposé. Bon. Il a arrêté de créer. Bon, il a arrêté de créer. Peu importe le mot dont on se sert. Oui, bien entendu, il n'est pas question d'une fatigue de Dieu. Bon, mais le fait qu'il ait arrêté de créer implique non pas seulement une cessation de l'activité divine, mais également une remise de la création à elle-même. Si je puis me permettre, ce qu'il y a de remarquable dans ce récit de la création, c'est que Dieu lâche les baskets du créé. Alors que, par exemple, le dieu du Kalam, hein, le dieu de la théologie apologétique islamique, que je connais un petit peu, ne lâche jamais les baskets de la création, puisqu'à chaque moment, il la tient en laisse, si je puis dire. Alors, ce qui est une manière, effectivement, de salut, mais de salut qui s'effectue paradoxalement, et si je puis dire, en sauvant la création de Dieu lui-même. En se retirant, oui, si vous voulez. Là, on peut faire intervenir la fameuse...
C'est le Tzimtzoum, ça.
Oui, l'éternel Tzimtzoum de la Kabbale laurianique au XVIe siècle, mais qui a ses ancêtres dans le néoplatonisme. Hein, méthode de l'Imple parle de la systolée de Dieu, un Dieu qui se restreint de manière à laisser libre la création. Donc voilà, ce sont des remarques et des questions auxquelles vous pouvez répondre ou non, suivant votre décision.
Mes capacités d'abord. On aurait pu aussi dire, pour votre dernière remarque, la création continue ou continuer. C'est aussi l'idée que Dieu ne lâche pas. Ne lâche pas au sens où c'est lui qui maintient par une création continue les existants dans l'existence.
Excusez-moi, je me suis peut-être exprimé un peu trop vite. Bon, pour qui admet l'idée de création, il est clair que si Dieu, par extraordinaire, cessait de vouloir que les choses soient ce qu'elles sont, bon, ben, voilà, rien n'existerait plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le Dieu de la Genèse laisse les créatures être, non pas les laisse être, exister, les laisse exister, puisque effectivement il les laisse exister à chaque instant, mais il les laisse être ce qu'elles sont, hein, au lieu de leur conférer à chaque instant les propriétés qui sont les leurs. En termes presque scolastiques, Dieu crée des natures, il ne crée pas des grappes de propriétés qui ne seraient attachées les unes aux autres que d'une manière purement arbitraire. Voilà, c'est tout, mais ça n'est pas, ça n'entre pas en contradiction avec l'idée de création continue telle que la comprennent les théologiens. Excusez-moi, j'étais un peu rapide.
Merci pour ces remarques. La première chose que je voudrais dire, pour revenir au début de votre question sur Platon et Tosotzon, effectivement, moi, ce qui me semble frappant quand on lit les textes de la tradition philosophique, à commencer par Platon, mais même à partir de Parménide et Héraclite et les autres présocratiques, c'est que c'est comme s'il y avait eu un oubli de la question du salut en philosophie. comme s'il y avait une désotériologisation des études philosophiques qui est assez frappante. Et donc ce point est en soi un objet de méditation, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'alors que la question du salut ou la question de la salvation est présente de manière extrêmement nette dans les textes de la métaphysique, on n'a jamais vu de traité de sotériologie philosophique. Et donc peut-être que le contexte que vous mentionnez par rapport aux religions du salut se fait dans le sens inverse, c'est-à-dire que précisément parce que la question du salut était captée par ces pratiques religieuses comme outil de distinction, les philosophes l'ont utilisé, mais comme en passant, comme de manière un peu, disons, en contrebande. J'ai pensé d'ailleurs aussi à l'orphisme comme disons, pratique religieuse très, très importante. Donc, premier point, voilà, ce qui me semble vraiment frappant, c'est cette désotériologisation de la philosophie, pour laquelle je n'ai pas évidemment de solution. Le deuxième point, sur ce que je voudrais dire, par rapport à l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, je vais dire une chose choquante, mais je serais prêt à soutenir que la salvation est à une dimension anhistorique. C'est-à-dire que le contexte dans lequel certaines pensées élaborent une notion particulière de salvation n'empêche pas qu'on ne peut pas ne pas traiter de la question de la salvation. Et qu'en ce sens, c'est un absolu de la pensée. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas échapper à cette question, quel que soit son point dans l'histoire. Et donc, le contexte, évidemment, importe pour comprendre historiquement certaines pensées philosophiques qui traitent de la salvation, mais au fond, elle sera toujours traitée. Évidemment, c'est un peu scandaleux, disons, par rapport à l'historicisme de ce que je viens de dire, mais je pense que ça serait une thèse intéressante. Et la dernière chose que je voudrais dire par rapport à Bergson, effectivement, c'est précisément ce à quoi je suis en train de réfléchir, parce que au fond, ça me conduit à m'interroger sur le néant. Et pour Bergson, le néant, par définition, n'est pas, ou n'est rien d'autre que l'être auquel on ajoute sa propre soustraction. Et donc, alors que finalement, votre question est difficile, parce que tout ce que moi je suis en train de commencer à dire, c'est que le néant est premier sur l'être. Et donc Bergson, au contraire, pour lui, le néant est second sur l'être. Et c'est précisément ce à quoi je travaille.
Merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres réponses de votre part...